VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le procès du meurtre de 4 hommes, dont 2 Français, a enlevé en 2011 à l'hôtel Novotel d'Abidjan, au plus fort de la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts dans le pays, a débuté ce mardi à Abidjan en présence des 10 accusés, pour la plupart des militaires ivoiriens. Tous les accusés sont présents, tous ont un avocat, a déclaré le président de la cour, le juge Mourlaï Sissoko, en ouvrant le procès. Selon l'acte d'accusation, 5 des 10 accusés, dont le général Bruno Dogbo-Blé, qui commandait à l'époque la garde républicaine, sont poursuivis pour séquestration et assassinat. Les autres pour enlèvement et ou disparition de cadavres. Initialement prévu fin novembre, l'ouverture du procès avait été finalement repoussée au dernier moment, au 31 janvier. Ce jour-là, à peine ouvert, il avait été à nouveau reporté en raison de l'absence de la moitié des accusés. Nouveau gouvernement depuis hier au Burkina Faso. La nouvelle équipe comprend 32 ministres avec l'entrée de 5 nouvelles personnalités contre 30 dans l'équipe précédente nommée en janvier 2016 par le président Marc-Christian Kabore. Pas de changement dans les ministères clés, affaires étrangères, justice, économie et finances, mais le président burkinabé cède le portefeuille de la défense. Le domaine de la sécurité a maintenant son propre ministre, alors que le Burkina Faso fait face depuis 2015 aux attaques des djihadistes. Par ailleurs, l'armée burkinabé veut se réformer pour devenir une armée républicaine. Tel est l'objectif du plan stratégique qui a fait l'objet de la rencontre d'échanges entre les responsables militaires du Burkina. De Ouagadougou, les explications de notre correspondant Zoumana Ronogo.
Mise en œuvre du plan stratégique 2017-2021 pour la réforme des forces armées nationales, appropriation par les acteurs. C'est sous ce thème que les hauts gradés de l'armée burkinabé se sont penchés. Écoutons le général Oumarou Saadou, chef d'état-major général des armées, sur les grands axes de la réforme.
La dépolitisation des forces armées, l'équipement des forces armées, la gouvernance, la responsabilité, le contrôle et aussi, bien entendu, le moral et les traditions dans nos forces armées.
Nous avons rencontré Jonas. Il est le président du Conseil national des organisations de la société civile du Faso. Voici ce qu'il pense de cette réforme de l'armée burkinabé.
L'aspect qui nous paraît le plus important, c'est la dépolitisation de l'armée. Donc avoir une armée républicaine. Avec les réformes en cours, ça va faciliter la tâche de tout le monde. Aussi bien nous les civils que cette majorité de militaires aussi qui souhaitaient vraiment que l'armée reste à sa place. Donc je pense que c'est une bonne chose. On peut parler de renaissance si on veut. L'armée n'a pas été formée pour gérer des pouvoirs d'État. Quitte à ce qu'un gouvernement en place, au regard de la compétence d'un militaire, par exemple un médecin, un technicien dans un domaine bien précis, donc peut être appelé dans le gouvernement. Mais cela ne doit pas être confondu à la gestion du pouvoir par l'armée.
Et dans ce vox pop, des Burkinabés s'expriment sur la nouvelle voie que veut emprunter l'armée.
Moi j'attendais ça depuis fort longtemps, puisque l'armée avec la politique ne peut pas se mélanger. Ça c'est normal. L'armée est là pour protéger la population. La réforme de l'armée, ça c'est bon, oui.
Notre armée était vraiment politisée. Maintenant, avec cette réforme, je crois que ça va nous amener de l'avant, à nous aider à avoir une armée républicaine. Nous, population aussi, il faudra aussi que nous fassions une réforme pour aider l'armée, pour qu'on puisse ensemble lutter contre les fléaux qui sont comme le terrorisme et le grand banditisme, dénoncer et ne pas rester silencieux.
Cette renaissance va coûter certainement de l'argent. Alors, où le trouver? Suivons le président du Faso, Roch Marc Christian Kabore.
Concernant son financement, un avant-projet de loi de programmation militaire sera bientôt introduit auprès de l'Assemblée nationale pour solliciter les crédits budgétaires nécessaires à la conduite des activités. La sécurité et la paix sont des préalables incontournables au développement. C'est pourquoi, à la requête du gouvernement burkinabé, l'Organisation des Nations Unies s'est engagée à nous accompagner dans un processus de réforme du secteur de la sécurité afin de partager avec nous son expertise accumulée à travers ses nombreuses expériences sur le théâtre d'opération.
Soumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, le désaccord persiste à Kinshasa entre le gouvernement et l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, sur l'endroit où doit être enterré le chef de ce parti, l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février. Le gouverneur de la capitale congolaise a proposé un endroit en plein centre-ville, tandis que les dirigeants de l'UDPS souhaitent, eux, que le mausolée dédié à leur leader soit érigé au siège du parti dans la commune de Limété. Le point avec Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le corps d'Étienne Tshisekedi traîne toujours à Bruxelles. À Kinshasa, il n'y a pas toujours d'accord entre les autorités et les familles biologiques et politiques du leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social sur les sites où sera inhumé cette icône de la scène politique congolaise décédée le 1er février dernier. Lors d'une rencontre entre les deux parties lundi, le gouverneur André Kimbuta a finalement proposé le cimetière de la Gombe en plein centre-ville de Kinshasa.
J'ai proposé la nécropole, la famille, ils ont refusé. Mikonga, juste après l'aéroport, ils ont également refusé. Ça m'est arrivé en tête de m'arrêter à l'ancien cimetière de la Gombe. Je suis allé chercher pour identifier un site. J'ai trouvé un grand site de 500 mètres carrés, s'il vous plaît. Toute personne qui passe verra s'il y a un mausolée que nous devons construire là-bas, ainsi de suite.
Mais ce choix est loin de trouver l'accord de l'UDPS qui propose, elle, que son président soit enterré à la permanence du parti. Jean-Marc Kabunda Kabunda, secrétaire général de l'UDPS.
Nous avons demandé au pouvoir en place d'accepter que le président Tshisekedi soit inhumé dans l'enceinte de notre permanence. C'est tout ce que nous avons demandé au pouvoir et nous espérons qu'ils vont nous répondre favorablement dans les heures qui suivent.
Avec ces deux accords persistants, on ne sait toujours pas quand sera rapatrié la dépouille d'Étienne Tshisekedi. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En RCA, ville morte hier à Bambari, dans le centre du pays, où la population vit dans la psychose d'une nouvelle flambée de violence après l'expiration de l'ultimatum de 48 heures donné par la MINUSCA, la force onusienne, à Ali Daras, leader de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, pour quitter le territoire centrafricain. La région a été le théâtre d'accrochage la semaine dernière entre deux factions rebelles de l'ex-Séléka, l'UPC et le FPRC. Au micro de Félix Yepassi Zembrou, Amaseka Wamandou Aubin, député de la circonscription de Bambari 2, décrit l'atmosphère sur place en ce moment.
Au niveau de la sécurité, notamment à Bambari, en particulier dans la Waka, c'est vraiment précaire par rapport au comportement des éléments de Ali Daras qui se substituent comme des militaires réguliers. Alors, ce sont des militaires non conventionnels. C'est comme ça qu'ils exercent à outrance en désordre. C'est-à-dire, la population veut vaquer à leur occupation. C'est impossible par rapport à leur manière d'agir. Ils font des incendies de n'importe comment. C'était comme ça que les gens ont peur de vaquer à leurs occupations, obligés de rester à la maison et souffrir. Et le gouvernement ne pense même pas à eux, ils sont abandonnés à eux-mêmes.
Ces éléments de Ali Daras dont vous parlez, ils sont visibles dans Bambari en ce moment?
Bien sûr, sous les yeux des gens de la MINUSCA. Alors ils se promènent avec les armes ensemble, c'est-à-dire parmi les gens de la MINUSCA, ils se croisent avec eux, sans pourtant les arrêter, soit les désarmer.
N'est-il pas question de déloger Ali Daras, de le bouter hors du territoire?
C'est quand les gens préconise pour que, c'est-à-dire, la ville de Bambari reste tranquille comme ça, les gens peuvent vaquer à leurs occupations. Au lieu de le bercer comme un enfant, je ne sais pas. Alors, c'est un étranger.
Amaseka Amadou Aubin, député de la circonscription de Bambari 2 en RCA. Et puis appel à l'aide urgente de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Près de 2 400 000 enfants risquent de mourir de faim cette année au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen, selon l'agence onusienne. Précision de Jean-Roger Bion.
Au Yémen, où une guerre civile fait rage depuis près de 2 ans, 462 000 enfants souffrent de malnutrition sévère et ils sont 450 000 dans le nord-est du Nigeria, où sévit le groupe islamiste Boko Haram. FuseNet, le réseau des systèmes d'alerte précoce contre la famine, a noté que les régions les plus reculées de la province de Borno au Nigeria sont déjà frappées par la famine depuis la fin de l'année dernière. Le désastre va aller en empirant, les agences d'aide étant dans l'impossibilité d'atteindre les victimes, souligne l'UNICEF. La sécheresse en Somalie a laissé 185 000 enfants au bord de la famine et ils seront quelque 270 000 d'ici quelques mois, a mis en garde l'agence onusienne. Au Soudan du Sud, plus de 270 000 enfants souffrent de malnutrition et la famine vient juste d'être déclarée dans certaines parties de l'État d'unité dans le nord où vivent 20 000 enfants. Le directeur de l'UNICEF, Anthony Lake, a appelé à agir vite. Nous pouvons encore sauver de nombreuses vies, a-t-il dit.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.